Nous avons reçu une parole difficile ce matin. C'est difficile quand il y a le Seigneur qui frappe à la porte et qu'on n'arrive pas à répondre. Ou qu'on n'entend pas qu'il frappe, ou qu'on n'a pas envie d'entendre, ou qu'on ne sait pas comment ouvrir. Et quelquefois, on attend parce qu'on pense que c'est le Seigneur qui va ouvrir. Et je crois que c'est une compréhension erronée, mais assez générale. On attend que le Seigneur ouvre. Alors que lui, il nous laisse le choix parce qu'il nous a créés libres d'ouvrir ou bien pas. Et ce matin, nous allons parler de l'audace qu'il faut pour ouvrir la porte, de l'audace dans l'intercession, de l'audace dans la prière, de l'audace dans la vie chrétienne. Quand on fait preuve d'audace, c'est qu'on vise un objectif ou un résultat. Et attention, l'audace n'est pas l'ambition. Il y a une différence. On parle de projet audacieux et on parle de projet ambitieux. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre. L'ambition, c'est que quand on vise quelque chose qui va flatter l'amour propre, quelque chose qui va nous élever en pouvoir, en honneur, en réussite, que ce soit professionnel, financier, etc. L'audace, quelqu'un disait, c'est du culot. Oui, c'est du culot, mais sans la connotation négative. L'audace, c'est le culot dans le sens d'oser, d'avoir le courage. Et lorsqu'on parle d'un projet audacieux, c'est qu'on a la conscience qu'il y aura des obstacles et que ce sera difficilement réalisable. Voilà pourquoi il faut de l'audace. C'est parce qu'on sait que ça ne va pas être tout simple. Et l'audace, c'est le contraire de la peur. L'audace, c'est ce mouvement intérieur qui prend racine dans les tripes et puis qui nous projette vers l'extérieur avec des actes de courage et de volonté. L'audace, c'est le contraire de la peur. L'audace est étroitement liée à la foi. C'est pour ça que ce matin, j'ai intitulé ce message « L'audace de la foi ». Et nous sommes dans l'évangile de Marc. Nous allons voir cette audace. Et une fois de plus, Marc met en avant l'identité divine de Jésus. Et c'est cette compréhension de la divinité de Jésus, ou plutôt de qui est Jésus, qui est le Messie, qui va donner l'audace à notre protagoniste d'obtenir ce qu'il désire. Et notre protagoniste, c'est Bartimée. Bartimée, l'aveugle mendiant qui se tient sur la route entre Jéricho et Jérusalem. Alors vous allez dire, mais c'est le dimanche des rameaux. Pourquoi elle va nous prêcher sur Bartimée? Eh bien, figurez-vous que cet événement a probablement eu lieu le même jour que la montée à Jérusalem. Et si ce n'est pas le même jour, c'est peut-être la veille. Mais on est en chemin pour Jérusalem. Et autant dire que l'atmosphère, elle est différente de ce qu'elle était en Galilée. L'heure est terriblement grave. Les foules ou la foule qui suit Jésus n'est pas du tout dans le même état d'esprit qu'en Galilée. Donc la Galilée, il faut que je fasse attention que ça ne siffle pas, la Galilée, c'est, vous voyez, tout là en haut. Jérusalem est en Judée. Jésus a beaucoup enseigné en Galilée et vous avez tout son parcours. Alors il y a eu d'autres endroits où il est passé, mais grosso modo, vous avez son parcours où il est descendu plus au sud jusqu'à Jérusalem. Et sur la route, Jésus est obligé de traverser le Jourdain, parce qu'il l'avait traversé une première fois, il retraverse le Jourdain, il arrive à Jéricho. C'est une ville de grand passage, la route aussi. Et ensuite, il a ses amis à Béthanie et Jérusalem tout près. On estime à environ 27 kilomètres cette route-là. Donc il y avait quand même une bonne marche. Mais l'atmosphère, elle est assez... Tu peux enlever, merci. L'atmosphère, elle est assez pesante, parce que nous sommes après la transfiguration, nous sommes après beaucoup d'événements, d'enseignements de Jésus, et les enseignements, ils deviennent toujours plus... Comment est-ce qu'il faut dire? Toujours plus prenants. Il y a les disciples, ils ont demandé à Jésus, mais quand tu reviendras dans ta gloire, est-ce qu'on pourrait être l'un à ta gauche, l'un à ta droite? Et puis Jésus, il les reprend, puis il est en train de dire, mais si tu veux être le premier, essaye d'abord d'être le dernier. Il est en train de dire, mais si tu veux être le premier, tu dois sacrifier ta vie, tu dois te donner. Si tu veux être élevé en dignité, tu dois servir. Les messages de Jésus, ils montrent que si tu veux de l'ambition, tu es obligé de t'aplatir. Et l'heure est terriblement grave, qu'à un moment, dans Marc 10, nous serons dans le chapitre 10, il est noté, « Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. » Jésus n'est pas entouré, il est devant. Jésus allait devant eux, les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Voilà l'atmosphère de la foule et des disciples qui suivent Jésus. Imaginez, vous avez Jésus, les disciples, la foule, un espèce de silence pesant. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus, il sait qu'il est là pour monter à Jérusalem. Il sait qu'il sera accueilli comme un roi, mais qu'une semaine après, les mêmes personnes vont crier « Crucifie-le ». Il sait tout ça. Alors autant dire que ça doit se voir dans sa façon d'être, dans son visage, dans son ressenti. L'heure est grave. Voilà dans quoi nous allons entrer comme atmosphère et voir que quelque chose va trancher complètement. Nous sommes dans Marc 10, les versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, c'est-à-dire mon maître, » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Bartimée, un mendiant, aveugle, audacieux. Il faut bien comprendre le contexte de Bartimée. Bartimée. Bar, ça veut dire fils. C'est un mot araméen. En hébreu, c'est Ben Yamin, Benjamin, fils de ma droite. Bar, c'est comme le Ben hébreu. Mais Timée, c'est un peu plus compliqué. Parce que dans le texte grec, il est question de Bartimaios. Et Timaios, c'est le terme grec qui veut dire honneur. Alors, Bartimée s'appelle certainement fils d'honneur. Le problème, c'est qu'il est assis dans la poussière, c'est qu'il est aveugle et qu'il est mendiant. Il ne peut pas travailler à cause de son handicap, il peut juste agiter son écuelle pour faire du bruit avec les petites pièces qui sont dedans en espérant que quelqu'un voudra bien mettre une pièce. Mais il y a encore un autre problème. C'est qu'en hébreu, timé, ça veut dire impur. Et il y a de fortes chances que son vrai prénom, c'est Bartimaios. Il y a de fortes chances qu'il s'appelle vraiment fils d'honneur. Mais si vous imaginez un peu sa condition, il y a le conflit de loyauté en se disant « mais je ne peux pas être un fils d'honneur ». D'ailleurs, dans la conscience collective de l'époque, Jésus a réfuté ça. Mais dans la conscience collective, quelqu'un qui était aveugle, vous pouvez lire dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean, les gens pensaient que la personne était sous le coup d'une malédiction. Soit c'est ses parents qui avaient péché, soit c'était lui. Il n'y avait pas d'autre voie. Donc imaginez ce que peut ressentir Bartimée. Conflit de loyauté, il ne porte pas bien son prénom, ou alors, est-ce qu'en fait il ne s'appelle pas... Est-ce qu'il ne s'appelle pas fils de l'impur? Il peut s'en passer des choses dans la tête. Il peut y en avoir des pensées qui viennent parasiter son identité. Alors on comprend que sa situation, franchement, elle n'est pas à envier. Bartimée, il a tout contre lui. Il est au banc de la société. C'est celui qu'on ignore. C'est celui qu'on fait taire. C'est celui qui n'a pas le droit au chapitre. Et voilà qu'à un moment donné, il entend dire que ce bruit qu'il entend, cette foule, c'est Jésus de Nazareth. Alors Bartimée, il se lève dans l'audace de la foi, et il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Tant pis s'il fait du tapage, tant pis s'il dérange, tant pis s'il est indigne, tant pis si on essaye de le faire taire. Bartimée, il a compris. Bartimée, il a compris que Jésus est le fils de David. Autrement dit, le Messie annoncé par les prophètes. Bartimée a compris l'identité. Et c'est à cause de cette compréhension, parce qu'il connaît les textes, et qu'il comprend qu'il a l'audace de faire ce qu'il fait. Bartimée veut être vu et entendu de Jésus, parce qu'il sait que Jésus peut et veut quelque chose de bon pour lui. Ton amour me poursuit, ta tendresse me poursuit. Ce matin, pendant le temps d'intercession, on avait ce passage, c'est le psaume 136, qui répète et qui répète et qui répète, car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Car ta miséricorde durera toujours. Bartimée, il a compris que le Seigneur peut et veut quelque chose de bon pour lui. Alors il dépasse tous les obstacles, toutes les difficultés. Il se lève dans l'audace et il crie. Mes amis, comment vous approchez-vous du Seigneur? De quelle manière? Avec détermination? Avec confiance? En dépit des obstacles? L'audace de la foi, c'est de dépasser notre indignité, c'est de dépasser nos doutes, c'est de dépasser notre léthargie, notre passivité. C'est de dépasser ces voies intérieures qui viennent comme des parasites pour nous maintenir assis dans la poussière. Oh, Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. C'est là que j'ai la sainte colère qui monte. Mais bien sûr que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle du cours de l'histoire. Dieu est souverain sur toute sa création, bien sûr. Mais il nous a créés libres et responsables de faire des choix. Dieu n'est pas au contrôle de nos vies. Dieu n'est pas au contrôle de nos choix. Dieu n'est pas au contrôle si nous ouvrons cette porte quand il frappe ou si nous nous bouchons les oreilles. Il nous demande à nous de nous lever et d'être actifs dans notre foi. Est-ce que Bartimée est resté passif avec son écouelle tendue en se disant « Mais Jésus est au contrôle, donc il sait que je suis aveugle, donc il sait que j'ai des besoins, il sait que j'ai besoin de manger, mais il sait que j'aimerais bien qu'il ouvre mes yeux. » Et est-ce qu'il a laissé passer la foule? Non. Quand il a entendu que c'était Jésus, il a hurlé de tout son cœur. Il a mis tout le reste de côté parce qu'il était déterminé. Et quand je préparais ce message, je pensais aux oiseaux du ciel, parce que mon bureau est tout proche de la fenêtre, que j'ai des spatz qui viennent faire leur affût, et on les entendait piailler. C'était le printemps, c'était il n'y a pas longtemps, mais apparemment dans quelques jours ça va revenir. Je ne sais pas si vous avez déjà observé, quand les œufs ont éclos, et que les oisillons sont dans un nid, et qu'ils sont en train de piailler et de réclamer leur nourriture. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils attendent patiemment que les parents viennent les nourrir? Parce que les parents sont au contrôle? Non! Ils piaillent, ils ont la tête levée, les becs ouverts, et ils piaillent, ils piaillent, ils piaillent. Ils ont l'audace de la foi. Parce qu'ils piaillent tellement fort, ils sont tellement sûrs de ce qu'ils font, que les parents ne peuvent pas faire autrement que d'aller chercher de la nourriture, de la prémâcher, et puis de la déverser dans leur gosier. Mais s'il y en a un qui reste passif, il ne sera pas nourri. L'audace de la foi, c'est d'avoir cette confiance quand on est dans la foi, que le Seigneur nous veut du bien, mais il faut se mettre en route. Les oiseaux ne se demandent pas s'ils sont dignes, si les parents sont capables ou non de les nourrir. Ils ont faim, ils piaillent. Alors soyons audacieux. Soyons audacieux dans nos sujets de prière. Nous avons entendu une parole difficile. Nous avons des proches qui nous inquiètent. Mais soyons audacieux dans la prière. Demandons au Seigneur de nous donner ces clés de l'audace, ces clés de révélation qui vont nous aider à être de plus en plus puissants dans l'intercession, dans la prière. Peut-être qu'il faudra poser des actes. Au lieu d'attendre que ça vienne, allons-y. Allons-y. Vous savez, pour moi, c'est pas rien cette période. Nous sommes le 24 mars. Ouais. Juste d'en parler, ça monte. Il y a 2 ans. Pourtant, il y a 2 ans, plus de ça, j'étais infirmière. Je devrais me dire, voilà, normalement, je ne me laisse pas toucher par ces choses-là. Mais ce qui m'est arrivé il y a 2 ans au niveau de ma santé m'a vraiment ébranlée à plus d'un titre. Et ça m'étonne moi-même, parce que j'en ai vu d'autres, ce n'était pas la première hospitalisation, ce n'est pas la première fois que j'aurais pu mourir sans les soins, mais là, ça m'a vraiment, ce qui m'est arrivé m'a vraiment impacté d'une manière particulière. Le 28 mars, je suis sortie de l'hôpital, sortie d'affaires, un peu dans un sale état, mais sortie d'affaires, il y a 2 ans. Mais quand je suis entrée la première fois pour une soi-disant appendicite, qu'ils ont ouvert et qu'ils ont refermé, qu'ils m'ont dit que c'était tout moche dans mon ventre, j'ai très bien compris ce que ça voulait dire, surtout quand on m'a dit qu'on va faire un scanner. J'ai compris, il n'y avait pas besoin de dessin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait opérer en fin de journée. Le lendemain matin, j'étais toute seule, je n'avais pas de voisine dans ma chambre. J'étais en chemise de nuit d'hôpital, debout, avec mon ventre dans tous ses états, le statif, le pied à perfusion, comme canne. J'avais mon épée. Et je suis allée dans le psaume 18 et le psaume 118, et j'ai commencé à écraser mes ennemis. Je les taille en pièces, je leur brise les dents, je les réduis à la poussière, et j'ai commencé à proclamer ces psaumes. Je ne voulais pas que le cancer m'atteigne. Et s'il m'avait atteint, c'était dehors. L'audace de la foi. Après, il y a eu plusieurs rebondissements. Rentrer à la maison, antibiotiques, tout ça, retourner à l'hôpital, il fallait enlever un morceau du côlon, ça a été fait, et tout à coup je suis partie en hémorragie. Et là encore, si tout n'avait pas été dans le bon timing, les choses, elles partaient. Et là, j'étais plus en état d'avoir l'audace de la foi, moi j'étais juste dans la paix. Je comprenais pas, je me disais ça joue pas, mais j'étais dans la paix. Par contre, il y en a un qui a eu l'audace de la foi. Et lui qui dit pas souvent s'il a peur, parce qu'il n'a pas souvent peur, il a alerté tous les guerriers de prière. Et la plupart d'entre vous, vous en faisiez partie. Et les gens se sont positionnés avec l'audace de la foi en disant « on n'est pas d'accord ». Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, Dieu est au contrôle, vous auriez un autre pasteur. Je suis sortie, le jour où je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit, en fait, on a reçu tous les résultats, il n'y avait pas de cancer. Ben non, il n'y avait pas de cancer. Amen. Amen. Alors oui, l'opération, j'en avais besoin. Il y avait quand même une appendicite chronique qui a fait plein de dégâts. Donc oui, oui, tout ce que j'ai vécu, je devais le vivre. Mais l'audace de la foi, vous comprenez? L'audace de la foi, elle demande de poser des actes. Quand ils ont donné ce diagnostic, on en a parlé avec Ritz, bien sûr, il a été mis au courant tout de suite, mais j'en ai dit le moins possible. Je ne voulais pas prononcer ce mot. Je disais, j'ai une appendicite compliquée. Ce n'était pas un mensonge. Je ne voulais pas donner à manger aux voies parasites. Je ne voulais pas. Je voulais que ma foi, elle reste ferme. Il faut poser des actes. Et moi, je vous encourage dans vos situations de poser des actes. Ça peut être des actes au niveau de la foi dans la prière par rapport à une situation. Mais ça peut aussi être quand vous êtes sûr que vous devez faire quelque chose. Un autre exemple, le but n'est pas de parler de moi, mais c'est ce que je connais parce que je l'ai expérimenté de l'intérieur. Quand j'étais convaincue que nous devions faire l'école avec Ritz, l'école théologique et biblique, au niveau de mon travail, c'était juste impossible. Parce qu'il fallait diminuer le pourcentage, mon poste ne le permettait pas, et j'ai quand même fait la demande. Et on m'a dit non. Mais moi j'ai dit, je dois y aller. Et à un moment donné, j'ai témoigné à l'église et j'ai dit, j'ai mis le pied dans la porte. Vous savez, elle ne peut pas se fermer. Hein? Et j'ai été convoquée chez la directrice des soins. Et puis j'ai expliqué mon histoire. Puis elle m'a dit, mais je ne peux pas te dire oui. Parce que tu vas dans le mur, tu vas t'épuiser. J'ai dit, je comprends. Mais je dois faire cette école. Elle m'a dit, ok, alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu es d'accord? J'en tremblais. Elle m'a donné plus que ce que je demandais. J'en tremblais. Ça, c'est l'audace de la foi. Je sais que je sais que je sais. Alors je pose un acte et j'y vais. J'attends pas que Dieu ouvre la porte. Je mets le pied dans la porte et j'avance. Mais je dois être convaincue que je suis dans la volonté de Dieu. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Bartimée crie, mais on essaye de le faire taire. Pourquoi ? Pour ne pas importuner le maître, pour ne pas déranger. Il y en a déjà qui ont eu peur de déranger Jésus ? Je ne regarde pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on essaye de le faire taire? Parce qu'il est inférieur socialement? Parce qu'il n'a pas droit au chapitre? Parce qu'il dit la vérité? Quand il crie « Jésus, fils de David », vous savez, c'est justement ce que Jésus voulait éviter. Quand il a demandé aux disciples « Qui dit-on que je suis ?» Puis qu'après il leur a dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a dit « Tu es le Christ ». Jésus tout de suite lui a dit « Ne le dites à personne ». Et quand ils sont descendus de la montagne, de la transfiguration, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne dites rien de ce que vous avez vu tant que la résurrection n'aura pas eu lieu. Parce que Jésus savait que même s'ils ont compris qu'il était le Christ, ils n'avaient pas compris, ou le Messie, ils n'avaient pas compris ce que ça signifiait. Qui est ce Messie exactement? Ni les disciples, ni les foules. Et Bartimée, il crie à tue-tête, « Fils de David !» Et « Fils de David », ça veut dire « le Messie ». Aujourd'hui, nous savons même que ça veut dire « le Fils de Dieu ». Est-ce que ça, il l'avait compris? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il avait compris ce que les autres n'avaient pas compris. La foule, les disciples attendaient un libérateur militaire. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas qu'on crie qu'il est le Messie. Mais Bartimée connaissait les Écritures. Et il savait que le Messie n'était pas un libérateur militaire. Il savait que le Messie, c'est celui qui vient guérir les cœurs brisés. Bartimée était aveugle physiquement, mais il ne l'était pas spirituellement. C'était peut-être celui qui avait les yeux le mieux ouverts. Il savait que le Messie, c'est celui qui ouvre les yeux des aveugles. Il devait connaître Ésaïe 61. Il savait que c'est celui qui rend libre les opprimés, que c'est celui qui défend l'étranger, la veuve, l'orphelin, le faible, le pauvre. Et certainement que Bartimée connaissait le verset 7 du psaume 34. « Lorsqu'un malheureux crie, L'Éternel entend. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Bartimée a crié et l'Éternel a entendu. Parce qu'il a compris. Il a compris. C'est le Messie. C'est celui qui vient ouvrir les yeux des aveugles. Il a reçu l'audace de la foi. Il était convaincu qu'il ne serait pas rejeté. Il savait que Jésus avait le pouvoir et la volonté de lui ouvrir les yeux. Il a franchi tous les obstacles. L'audace de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Alors, c'est peut-être pas la seule manière, mais la plus grande manière d'avoir de l'audace qui déclenche une réponse du Seigneur, c'est de le connaître au travers de sa parole. Bien sûr, Jésus se révèle aussi autrement. Il se révèle dans sa création. Il se révèle par nos contacts les uns avec les autres. Il se révèle quand on a des temps d'intimité, de prière avec lui. Il se révèle de toutes sortes de manières. Mais c'est là-dedans qu'il se révèle vraiment. Et plus nous comprenons cette parole, plus elle se fait chair en nous, plus nous pouvons avoir l'audace de la foi. Parce que nous apprenons à connaître qui est le Seigneur. Sa parole n'est pas lettre morte, mais le Fils de Dieu est la parole incarnée. Alors, lorsque nous avons une requête, pour nous-mêmes ou pour nos proches ou pour d'autres situations, prions avec audace. Il faut utiliser, il faut appliquer cette parole à toute situation. Il faut dépasser ces voix internes et les voix externes qui essayent de mettre des embûches et de nous empêcher de la recevoir et de marcher pleinement dans notre destinée. Il faut être assez audacieux pour croire que Dieu est capable de restaurer, sauver, libérer. Pourtant, on le confesse, pourtant on le chante, pourtant on le prie, pourtant on le dit. Il faut que ça se traduise en actes. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Tout à coup, la foule, hein, paf ! D'abord, c'était toi, puis maintenant, c'est « Vas-y !» Mais bon, on ne va pas leur jeter la pierre, parce que je ne suis pas sûre qu'on serait très différents. « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Quelle question ! Mais quelle question! Mais c'est tellement évident. C'est tellement évident que Bartimée, il ne s'est pas levé avec son équelle, rempli mon équelle. Enfin, je pense qu'on a tous compris que ce que demandait Bartimée, ce n'était pas de la richesse pour pouvoir manger à sa faim jusqu'à la fin de ses jours. S'il a compris qui est le Messie, c'est « Mais Seigneur, mais que je recouvre la vue !» Mais pourquoi? Pourquoi Jésus, qui est au contrôle et qui sait tout, pourquoi Jésus lui pose une telle question? Parce que nous avons été créés libres. Libres de vouloir être guéris ou pas. Libres de demander ou pas. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais si vous attendez au bord de la route avec votre équelle comme ça, ben voilà. Que veux-tu que je te fasse ? Le Seigneur aimerait qu'on lui demande, même si on sait qu'il l'a déjà prévu pour nous. Il ne veut pas faire de nous des gens qui se sentent complètement indignes et tout malheureux, qui attendent que le Maître veuille bien poser le regard sur nous puis nous donner quelques miettes de quelque chose. C'est pas ça. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons en communion avec confiance, que nous ayons confiance dans son amour et que quand nous avons un besoin, nous puissions l'exprimer librement avec la confiance. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu ne me rejetteras pas. Et si ma demande est complètement à côté, tu vas me le dire d'une manière qui ne va pas me blesser. Alors exposons nos requêtes au Seigneur. comprenons que nous avons besoin d'être responsables de notre foi, responsables de notre destinée. Bien sûr, il y aura toujours des éléments extérieurs contre lesquels nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas choisi de naître à tel endroit, de naître dans telle famille. Nous ne pouvons pas gérer nos employeurs ou je sais quelles circonstances. Bien sûr, il y a des choses contre lesquelles nous ne pouvons pas faire grand-chose. Mais nous sommes responsables de notre destinée avec Dieu. Parce qu'il est au-delà des circonstances. Mais nous devons ouvrir la porte. Il a frappé ce matin. Nous devons avoir l'audace de la foi pour ouvrir cette porte. Bartimée n'était certainement pas le seul mendiant au bord de la route. C'était une route de grand passage. Mais il est le seul que Jésus a accueilli parce qu'il l'a demandé. Il l'a demandé avec l'audace de la foi. Je m'arrête ici. Nous entrons dans une saison où nous allons avoir de plus en plus besoin de l'audace de la foi. Entre autres pour libérer les captifs. De plusieurs manières. Libérer les captifs, c'est entrer dans du combat spirituel. Et pour ça, il faut connaître le Seigneur. Pour ça, il faut être armé. Et nous sommes tous appelés à le faire. À briser les œuvres du malin. Et là encore, j'aime bien quand le Saint-Esprit inspire. Là encore ce matin, pendant le temps d'intercession qu'on a eu avec quelques membres du conseil, tous les dimanches matins, vous êtes les bienvenus. Si à 9h moins le quart, vous voulez venir prier avec nous pour préparer le culte, on s'appuie toujours sur une parole, la parole que le Seigneur nous donne. Il y avait, car ta miséricorde durera toujours, mais il y avait aussi Matthieu 18:18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. L'audace de la foi. Avec l'audace de la foi, on va lier les puissances. Et on va les briser. En particulier lorsqu'elles s'attaquent à nos bien-aimés. Lorsqu'elles gardent nos bien-aimés dans la cécité. La cécité spirituelle. La surdité spirituelle. L'infirmité spirituelle. Nous avons besoin de l'audace de la foi. C'est quelque chose de très concret. Alors encourageons-nous et que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Seigneur, merci parce que ta parole est tellement puissante. Jésus, toi, tu te préparais à monter à Jérusalem. Tu étais sur le chemin de la montée à Jérusalem et parce qu'un malheureux cri, tu t'arrêtes. Parce qu'un malheureux cri, tu l'entends, tu t'arrêtes et tu réponds à sa demande. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas de temps inopportun pour crier à toi. Merci Seigneur pour cet enseignement. Jésus, je te demande par ton esprit de toucher nos cœurs, de réveiller notre esprit. Donne-nous l'intelligence de cette parole, que nous puissions comprendre où nous en sommes. Que nous puissions comprendre comment avoir cette audace de la foi. Je te demande, Seigneur, de ne pas nous laisser tranquilles, mais de nous donner du courage, de la joie à ton service, de la joie à entrer dans une dimension de prière différente, audacieuse. Je te demande qu'on puisse voir des forteresses ébranlées, brisées. Je te demande de nous donner de voir des murs qui s'effondrent. Je te demande, Seigneur, de nous montrer comment faire, à quoi s'attaquer, de quelle manière, pour que les murs s'effondrent, pour que les yeux des aveugles s'ouvrent, pour que les oreilles des sourds s'ouvrent, pour que les infirmités soient brisées en ton nom puissant. Je te demande, Seigneur, que les forteresses n'aient plus d'action dans nos propres vies et dans celles de nos proches. Accorde-nous un esprit d'audace. Et je te demande encore l'audace, Seigneur, la volonté, le vouloir et le faire d'ouvrir cette porte à laquelle tu frappes. Que chaque personne, Seigneur, qui est encore en retrait, que chaque personne qui n'ose pas t'ouvrir, Seigneur, reçoive la liberté pour le faire. Que tout esprit méchant qui la retient soit lié dans le nom de Jésus-Christ. Et que chaque personne soit libérée. C'est toi qui délivres les captifs, qui rends libres les opprimés. Et c'est toi et c'est ton nom que nous confessons. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur de tout ce qui existe. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Amen.